الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم ما بعد. Nous continuons toujours à méditer les différentes étapes qui se sont déroulées pendant la période mécoise. Nous avons parlé dans les prêches précédents des persécutions que les compagnons ont eu à subir quand ils se convertissaient à l'islam, et en particulier les compagnons les plus faibles, ceux qui n'adhéraient à aucune tribu forte qui pouvait les défendre. Nous avons également parlé des fausses accusations et des insultes, des mensonges que les chefs quraïchites faisaient répandre auprès des habitants de la Mecque à propos du prophète alayhi salatu wassalam pour les dégoûter de son message. Nous avons également discuté du chantage et des menaces que les Quraysh ont fait à l'encontre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et également à l'encontre de son oncle Abu Talib. Il y a une nouvelle étape que nous allons étudier aujourd'hui, c'est qu'après toutes ces étapes-là, les Quraysh ont commencé à réfléchir et ils se sont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour mettre un terme à ce message, sauf une seule chose, c'était éliminer le chef de cette nouvelle religion qui était pour eux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient donc l'intention d'éliminer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat à l'encontre de la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ces tentatives d'assassinat se poursuivront jusqu'à la fin de sa vie, également pendant la période médinoise. Et il y aura pendant toute sa vie et également pendant cette période mécoise deux sortes de tentatives d'assassinat. Les tentatives d'assassinat individuelles, un homme parmi les chefs Quraysh plein de haine s'avancera pour essayer d'éliminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors il y aura des tentatives collectives, c'est-à-dire des plans et des stratagèmes qui seront fomentés par les Quraysh pour tenter d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes ces tentatives, qu'elles soient individuelles ou collectives, sont toutes vouées à l'échec, parce qu'Allah Azza wa Jal a promis qu'il rendra victorieux sa religion et qu'il rendra victorieux, qu'il défendra son prophète. Un jour, le fils d'Abu Lahab, Utayba ibn Abi Lahab, est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec toute sa haine, il est venu avec toute sa colère. Et il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, je suis mécréant, je m'écrois en ton Coran et je m'écrois en tes paroles, je ne suis pas croyant, je suis un mécréant. Et ensuite il a bondi sur le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a arraché son vêtement et il l'a frappé et il a tenté de l'étrangler et il lui a craché au visage, sauf que son crachat n'a pas touché son visage. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam a fait une invocation contre cet homme, Utayba ibn Abi Lahab, et il a dit, oh mon Dieu, fasse qu'un des chiens que tu possèdes s'occupe de cet homme. Et en effet, quelque temps après, Utayba ibn Abi Lahab est parti en voyage au Sham, c'est-à-dire la Syrie actuelle, et lorsqu'il s'est arrêté à un endroit pour camper dans une région qu'on appelle Az-Zarqa, et c'est une ville qui existe encore aujourd'hui, il s'est arrêté pour camper à cet endroit avec le groupe, avec ses compagnons de voyage. Des lions les ont encerclés. Et les lions, un lion en particulier, regardait fixement Utayba ibn Abi Lahab. Et à ce moment-là, Utayba ibn Abi Lahab a dit, malheur à moi, malheur à moi, je jure par Dieu que ce lion va me manger, et je jure que par Dieu que Mohammed va me tuer comme il l'a demandé. Il va me tuer alors qu'il est chez lui à la Mecque et que moi je suis ici au Sham en Syrie. Et le lion a bondi au milieu du groupe et il s'est occupé de prendre uniquement cet homme Utayba ibn Abi Lahab et lui a arraché la tête. Voici également un autre homme qui s'appelait Uqba ibn Abi Ma'it. Il est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prosternation. Et il lui a dit, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de prier et il a mis brutalement son pied sur le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui écraser le cou, pour lui écraser la nuque et pour tenter de l'étrangler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étouffé sous le pied de cet homme et ses yeux, on voyait ses yeux pratiquement sortir de son visage. Un autre jour, Abu Jahl a réuni tous les chefs de la Mecque et il leur a dit: sachez, ô Quraychites, que nous ne pouvons plus supporter cela. Nous ne pouvons plus supporter l'affaire de cet homme. Il refuse toute concession. Il refuse toute négociation. Il ne veut que critiquer nos divinités, qu'injurier nos ancêtres et insulter notre religion. Il ne veut que semer la discorde dans notre société et au sein de nos familles et de nos tribus. Je prends donc une promesse devant vous, aujourd'hui et devant Dieu, que j'irai demain à la Kaaba et je l'attendrai là-bas de pied ferme et que je prendrai un gros rocher que je n'arriverai pratiquement pas à porter tellement il sera lourd et que je lui fracasserai quand il sera en prostration, je lui fracasserai le crâne avec ce rocher. Mais sa tribu, la tribu des Banu Abdomanaf, voudront sûrement se venger. Mais faites ce que vous voulez. Ou bien vous me défendrez, ou bien vous me livrez à eux, mais en tout cas, moi j'ai pris la ferme décision de le tuer. Et à ce moment-là, les chefs Quraychites lui ont dit: va faire ce que tu as l'intention de faire, nous sommes d'accord avec toi, jamais nous ne te livrerons. Va tuer cet homme pour que nous nous débarrassions de ses idées. Le lendemain, Abu Jahl s'est dirigé vers la maison sacrée et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en prière. Il s'est approché de lui avec une grosse pierre et lorsqu'il s'est approché de lui, il a voulu fracasser le crâne du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la pierre. Les Quraysh s'étaient tous rassemblés pour voir ce qui allait se passer et ils ont vu Abu Jahl au moment où il était au point de jeter ce rocher sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu Abu Jahl s'enfuir. Ils ont vu Abu Jahl s'enfuir avec le rocher, le jeter, mais sans le jeter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeter loin de lui et s'enfuir. Il était rouge et il tremblait de peur. Les Quraysh lui ont demandé: mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit: au moment où je me suis approché pour jeter la pierre, j'ai vu une bête. Ça avait l'air d'être un chameau. Mais c'était un chameau? Non, ce n'était pas un chameau. C'était un chameau gigantesque. Un chameau comme je n'en ai jamais vu. Un chameau qui avait des crocs que je n'ai jamais vu. Un chameau si grand. Et il m'attendait. Et au moment où je voulais jeter la pierre, il ouvrait sa gueule pour m'avaler. Alors je me suis enfui. Et le professeur sallam a raconté ce récit à ses compagnons. Et il leur a dit qu'en fait, c'était l'ange Jibril qui avait pris cette forme pour effrayer Abu Jahl. Et il a dit, le professeur sallam: je jure par Dieu que s'il s'était approché encore plus, Jibril l'aurait pris. Ensuite, les chefs de Quraysh un jour se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés dans leur assemblée juste à côté de la maison sacrée, à l'endroit d'Ibrahim alayhi salam. Et ils ont commencé à parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certains disaient: nous ne pouvons plus supporter l'affaire de cet homme. Nous ne pouvons plus le supporter. Il nous faut à présent l'éliminer. Et alors que chacun parle avec haine et rage à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé pour, comme à son habitude, saluer la pierre sacrée et faire les tours autour de la maison sacrée. Et au moment où il a salué la pierre sacrée, ils ont tous bondi sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Ils se sont emparés de lui, ils l'ont mis à terre et chacun le frappait de toutes ses forces. Et l'un d'entre eux prenait ses habits, les arrachait et tentait de l'étrangler avec ses habits. Et Abu Bakr radiallahu anhu est venu en s'empressant, il est venu en courant pour tenter de s'interposer à cette attaque. Et il se mettait devant les Quraysh pour qu'il ne frappe pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'écriait en pleurant: voulez-vous tuer un homme dont le seul péché est de dire mon Seigneur est Allah? Voulez-vous tuer un homme dont le seul péché est de revendiquer qu'Allah est son Seigneur? Ensuite, ils se sont mis à frapper Abu Bakr et ils sont partis et les ont laissés. Un autre jour, Uqba ibn Abi Ma'it, toujours cet homme, est revenu et il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prosternation. Il a pris un vêtement et il a tenté d'étrangler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois encore, c'est Abu Bakr qui s'est interposé radiallahu anhu. Et il lui a dit encore une fois cette parole: veux-tu tuer un homme dans le seul péché de dire que son Seigneur est Allah Azza wa Jal. Toutes ces initiatives, toutes ces tentatives d'assassinat sont vouées à l'échec. Il y en a également de nombreuses autres, il y a également de nombreuses autres tentatives qui vont se dérouler pendant la période mécoise et même pendant la période médinoise, mais comme nous l'avons dit au début, elles sont toutes vouées à l'échec parce qu'Allah Azza wa Jalla a promis de défendre sa religion et de la rendre victorieuse, et il a promis de défendre son prophète alayhi salatu wassalam. La première leçon à tirer de cette étape pendant la période mécoise, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam supportait et endurait les persécutions, tout comme ses compagnons les supportaient et les enduraient. Il ne faut pas croire que les compagnons étaient persécutés et torturés et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait convenablement dans le luxe et il laissait ses compagnons supporter toutes ses douleurs et ses souffrances. Non, lui aussi, il a eu à supporter les pires des persécutions. Lui aussi, il a eu à patienter et à endurer face aux pires persécutions et aux pires tortures et même aux tentatives d'élimination et d'assassinat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam patientait et endurait. L'autre leçon, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons et il nous enseigne à nous, à sa communauté tout entière, l'endurance et la patience. Non pas seulement à travers ses prêches, non pas seulement à travers les leçons et les discours qu'il faisait, mais d'abord à travers sa patience face à ses persécutions. Il montrait aux compagnons comment il fallait patienter et ne pas rendre ses nuisances. Il montrait à travers sa patience qu'il fallait patienter. Il ne se contentait pas de dire, il patientait et endurait les persécutions, mais il montrait également à ses compagnons que lui aussi, il avait enduré tout cela, et il patientait et il endurait. D'ailleurs, à ce sujet, Allah Azza wa Jal dit, les gens croient-ils qu'ils vont être, qu'ils vont dire nous avons la foi et qu'ils vont être abandonnés sans qu'ils ne soient éprouvés? C'est là la troisième leçon à retirer de cette étape. Comme nous l'avons dit dans les prêches précédents, la victoire d'Allah Azza wa Jal est proche. La victoire d'Allah Azza wa Jal, c'est une promesse qu'Allah a faite à son prophète et à sa communauté. Personne ne peut nier qu'un jour ou l'autre, cette religion apparaîtra au grand jour et qu'elle sera victorieuse sur la surface de la terre. Mais avant cela, il faut absolument passer d'abord par l'étape de l'endurance et de la patience. Car Allah Azza wa Jal nous éprouve et nous teste. Et il veut que nous nous prouvions à nous-mêmes que nous sommes dignes de porter l'étendard de la victoire de l'islam. Les gens croient-ils qu'ils diront qu'ils ont la foi et qu'ils vont être abandonnés et qu'ils ne seront pas éprouvés? Ils seront éprouvés durant leur vie s'ils veulent arriver à la victoire. اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شبابنا اللهم اهد أمتنا اللهم اهد أمتنا اللهم ارزقنا الصبر في ديننا اللهم ارزقنا التحمل في دنيانا اللهم ارزقنا الصبر في دنيانا وديننا وارزقنا التحمل في ديننا ودنيانا اللهم اجعلنا نتعظ ونعتبر من سيرة نبينا اللهم اجعلنا نعتبر ونتعظ من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمتنا اللهم إنك تعلم بحال أمتنا فأبدل حالنا إلى حال خير منها يا رب العالمين اللهم أبدل حالنا إلى حال خير منها يا رب العالمين اللهم أبدل حالنا إلى حال خير منها يا رب العالمين اللهم إنك تعلم بحال شبابنا فأبدل حالهم إلى حال خير منها وإنك تعلم بحال نسائنا وأخواتنا وبناتنا فأبدل حالهن إلى حال خير منها يا رب العالمين اللهم أصلح شبابنا اللهم اهدهم واهد بهم واجعلهم سببا لمن اهتدى اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أصلح نساءنا وبناتنا وأخواتنا اللهم اجعلهن مصلحات صالحات اللهم اجعلهن قانتات صائمات مصليات اللهم اجعلهن متحجبات اللهم اجعلهن متحجبات ومتسترات اللهم انصر إخواننا وأهلنا في فلسطين اللهم انصر إخواننا وأهلنا في فلسطين
اللهم إنك تعلم بحال أمتنا في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، فكن معهم يا رب العالمين. وعليك بأعدائهم يا أرحم الراحمين، عليك بأعدائهم، اللهم اجعل تدمير أعدائهم في تدبيرهم، واجعل كيدهم في نحورهم، وسلط عليهم سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم إنك تعلم بحال أمتنا في قطاع غزة، اللهم إنهم يعيشون تحت الحصار، اللهم إنهم جياع فأطعمهم وأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مساكين فارحمهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين. اللهم انصرهم على أعدائهم، وأرنا في أعدائهم يوما أسود كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين، اللهم اجعل المسجد الأقصى عامرا بالإسلام والمسلمين، اللهم حرر كل شبر من أراضي فلسطين، اللهم انصر أمتنا في كل مكان، اللهم اجمع شمل أمتنا، اللهم اجمع شمل أمتنا، واجمع شمل جماعاتنا، واجمع شمل قاداتنا. اللهم وحد صفوفنا ووحد كل كلمتنا، اللهم أحينا على سنة نبينا وأمتنا على ملة حبيبنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.